bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovine et Elliot Baucher. À la réalisation, Alexandra Candilonguet. À la technique, Alex Dang.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
C'est le dernier jour de notre série consacrée à l'histoire économique des îles britanniques. Cette semaine, point de Brexit, mais une conquête normande au XIe siècle, la naissance d'une bourse de commerce sous Elisabeth Ier et un empire colonial qui divise les économistes et les philosophes. À présent, cap sur le XXe siècle et sur les années au pouvoir de Margaret Thatcher. La première ministre britannique amorce à la fin des années 70 un tournant néolibéral qui la propulse au rang des personnalités les plus impopulaires du XXe siècle. Mais que désigne au juste ce terme de néolibéralisme qu'elle n'a jamais utilisé? Quelles sont les influences idéologiques de la Dame de Fer? Et quel fut l'impact de sa politique sur l'économie et la société britannique? Voilà les questions qui vont nous occuper jusqu'à 15h. Vous écoutez France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Nous allons nous replonger dans les années Thatcher en compagnie de Nathalie Champroux, professeure de civilisation britannique à l'université de Tours, autrice de cet ouvrage « Entre conviction et obligation, les gouvernements Thatcher et Major face au système monétaire européen » paru aux presses de la Sorbonne Nouvelle, en compagnie également de Marc Lenormand en duplex de Montpellier, maître de conférence en civilisation britannique à l'université Paul-Valéry Montpellier III et spécialiste de l'histoire du néolibéralisme. À 14h50, Xavier Martinet nous rejoindra autour de la table pour nous donner des nouvelles de l'écho.
Nous avons toujours eu le sens de l'humour, et Dieu sait que nous en avons eu besoin récemment. Mais nous avons aussi d'autres caractéristiques, un don pour l'invention, l'initiative et le travail acharné. Avec le Parti travailliste, ces talents vont être gaspillés parce que le gouvernement prélève trop d'impôts. Combien de fois entendez-vous les gens dire « Regardez combien ils ont pris sur ma paie ». Alors naturellement, ils réclament des augmentations salariales plus importantes pour combler l'écart, et cela ne tarde pas à faire monter les prix. Demandez à n'importe quelle femme au foyer, elle vous le dira. Ce gouvernement a augmenté les prix plus rapidement et plus que tout autre gouvernement. La seule façon de maintenir les prix bas est d'augmenter la production. Et vous ne le faites pas en alourdissant les gens avec des taxes et d'autres restrictions. Ils ne travaillent pas pour le bonheur des finances, ils travaillent pour leur famille. Nous devons donc réduire les impôts sur les gains et l'impôt sur les compétences. Incitez nos employés et une fois encore, la Grande-Bretagne sera de retour dans la course.
Bonjour Nathalie Champroux et Marc Lenormand.
Bonjour Tiffaine de Rocchini.
Merci beaucoup d'être avec nous. C'est la voix de Margaret Thatcher qui a ouvert cette émission, extrait d'une vidéo de campagne diffusée quelques semaines avant les élections législatives de mai 1979. Les propos que l'on vient d'entendre, Nathalie Champroux, constituent un bon résumé du thatcherisme.
Oui, tout à fait. On entend ici une volonté certaine de faire reculer l'État. Margaret Thatcher est résolument contre les idées socialistes qui ont donné trop de place à cet État et au gouvernement, qui prélèvent de plus en plus d'impôts, effectivement. Elle considère que cet État est devenu lourd et que finalement il entrave la croissance et que c'est par la croissance économique que la population va pouvoir bien vivre.
Marc Lenormand, une première réaction à ce son que l'on vient d'entendre?
Oui, de la même manière, je pense que ce que ça permet de souligner, c'est la façon dont le thatcherisme a pu se nourrir d'emblée d'un certain mécontentement populaire à l'égard des politiques alors menées par les gouvernements travaillistes. Et également, pour cette raison, a également appelé à un soutien populaire en faveur de ces politiques de réduction des impôts. Et d'une certaine manière, c'est un des aspects centraux de ce qui a pu être identifié d'emblée comme le thatcherisme par Stuart Hall, qui est donc un intellectuel britannique, qui en 1979, en janvier 79, avant même l'élection et l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher, donne une première définition du thatcherisme comme cette forme d'autoritarisme populaire, à savoir de promesse d'un retour à l'ordre social, économique et politique, qui lui permet également de recruter les classes populaires en soutien à son programme économique.
Alors on va revenir sur les circonstances de l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher lors des élections de mai 79, mais d'abord, comment est-ce qu'elle devient la chef du parti conservateur en 1975, Nathalie Champroux, quel est son parcours ?
Alors, elle a eu un parcours universitaire qui a commencé par des études de chimie, où elle est rentrée à Oxford en 1943. Elle est sortie de cette université avec un diplôme et elle a commencé à travailler comme chimiste dans deux entreprises différentes. D'abord en chimie plastique et ensuite en chimie de l'alimentation. Et puis, très vite, elle a regretté, avant même de quitter Oxford, finalement, elle s'est exprimée sur le fait que ça n'était pas forcément la bonne démarche qu'elle avait eue et la bonne carrière qu'elle avait entreprise. Elle souhaitait s'investir en politique. Elle était déjà militante. Elle a été militante par l'association conservatrice de l'université d'Oxford dès qu'elle est rentrée à l'université. Elle avait des convictions très fortes. Elle se démarquait beaucoup de ses camarades par ses convictions. Et elle a donc, après avoir épousé Dennis Thatcher, elle a entrepris des études de droit. Et elle s'est lancée pleinement dans la politique ensuite.
C'est en 1959 qu'elle est élue à la Chambre des communes. Elle sera nommée secrétaire d'État à l'éducation et aux sciences en 1970. Et alors, il y a une date un petit peu clé dans le parcours de Margaret Thatcher, Marc Lenormand, c'est 1972. Elle est élue à ce moment-là par le Sun, femme la plus impopulaire de l'année. Pourquoi ? Parce qu'elle a pris la décision de supprimer la distribution quotidienne et gratuite de lait aux élèves de 8 à 11 ans. Pourquoi est-ce qu'elle prend cette décision, Marc Lenormand, qui va contribuer largement à sa mauvaise réputation?
Alors à ce moment-là, Margaret Thatcher fait partie d'un gouvernement conservateur sous la direction de quelqu'un qui est Edward Heath, qui est arrivé au pouvoir avec un programme, on va dire, libéral, ou un programme de libéralisation, dérégulation de l'économie, et qui d'emblée prend un ensemble de mesures qui, dans tout un large domaine de secteurs, dont l'éducation qui est le domaine de Margaret Thatcher, vont s'avérer impopulaires. Et à partir de 1972, d'ailleurs, c'est une période de reflux à partir de laquelle le gouvernement conservateur de Edward Heath va commencer à reculer sur la libéralisation, la dérégulation de l'économie, jusqu'à la défaite de Heath face aux mineurs en 1974. Et d'une certaine manière, à partir de 1972, Margaret Thatcher, de son côté, va, tout en restant au gouvernement, va commencer à se positionner comme une opposante interne à Edward Heath, positionné davantage de son côté sur l'aile droite et sur une affirmation plus forte des valeurs conservatrices, à nouveau de retour à l'ordre social et économique.
Et elle n'a pas une position facile, Nathalie Champroux, parce que non seulement elle est considérée donc comme la voleuse de lait, c'est comme ça qu'on l'appelle à ce moment-là, alors même qu'elle obtient tout de même en contrepartie une hausse des crédits de l'éducation, et en même temps elle doit se faire sa place au sein du parti conservateur, alors même que en tant que femme et en tant que fille d'un épicier, elle est assez mal considérée par un certain nombre de ses collègues, Nathalie Champroux.
Oui, tout à fait. Et en même temps, elle a des appuis, elle a des soutiens. Elle a notamment un appui considérable en la personne de Keith Joseph, qui adhère pleinement aux idées libérales et néolibérales. Et finalement, elle va être aidée aussi par un certain nombre de personnalités. Et puis, il faut savoir qu'elle va être mise au devant de la scène dès son premier discours à la Chambre des communes, le Maiden Speech, qui normalement est un petit discours de quelques minutes, où là, en réalité, elle va porter une proposition de loi que finalement le gouvernement ne souhaitait pas apporter directement en tant que projet de loi. Et elle va être propulsée sur la scène médiatique de cette façon.
Un mot, Marc Lenormand, sur les origines sociales de Margaret Thatcher et aussi sur le fait que toute sa vie, elle va devoir s'imposer en tant que femme dans un milieu d'hommes.
Alors effectivement, sur ses origines sociales, je pense que ça a été aussi commenté en rapport avec une certaine forme de morale. Je pense que c'était aussi frappant dans l'extrait que vous avez passé au tout début d'émission sur la façon dont il y a un registre moral de présentation des enjeux économiques sur les questions de talent, de travail, qui ont pu effectivement être associés à ses origines dans une forme de petite bourgeoisie et qui après ont aussi nourri son imaginaire politique et sa conception de l'économie politique.
Et elle en gardera toujours une certaine méfiance envers les élites, les intellectuels.
Alors, c'est là où on rentre un peu dans la question du rapport ambivalent de Margaret Thatcher aux travaux intellectuels. C'est comme quelqu'un qui, comme l'a rappelé tout à l'heure Nathalie Champoux, a fait des études universitaires, qui a lu, hein, tout particulièrement parmi ses lectures formatrices, on peut compter l'ouvrage de Friedrich Hayek, La route de la servitude, publié en 1944. Et à ce moment-là, Margaret Thatcher a 18 ans, elle lit cet ouvrage et ça constitue, ça vient en appui justement à cette conception politique d'une certaine manière qui lui était organique, hein, par son milieu social. Et par la suite, donc c'est quelqu'un qui va à la fois s'inspirer, s'entourer d'universitaires, participer à la fondation de think tanks, de réseaux d'influence néolibéraux. Donc participer quand même à l'émergence et au développement de ces réseaux intellectuels néolibéraux, tout en conservant cette réticence et en conservant ces distances tout de même à l'égard du monde universitaire. Et je pense qu'on va revenir dessus, mais c'est, à nouveau, elle s'entoure d'intellectuels, elle promeut tout un ensemble de travaux de recherche néolibéraux. En même temps, ça ne veut pas dire que dans sa pratique politique, elle va être la disciple ou elle va se contenter de mettre en œuvre des prescriptions politique formulée par des universitaires.
Alors on va revenir sur tous les points que vous avez soulevés, Marc Lenormand, et notamment sur ces influences idéologiques, Hayek et Friedman, mais d'abord revenons quelques années avant l'arrivée au pouvoir des conservateurs en 79.
Lorsqu'en 1976, Callaghan prenait la tête du parti travailliste et du gouvernement, l'inflation en Grande-Bretagne approchait 30%. Le pays était exsangue, les Britanniques faisaient pitié. 2 ans et demi plus tard, les Anglais respirent. De près de 30%, l'inflation est tombée à 8%. Et puisqu'il est vrai que l'économie va mieux, après 3 ans de restrictions, les ouvriers veulent toucher le bénéfice. Ils réclament 20 à 30% d'augmentation. Callaghan dit 5%, pas plus.
Si nous augmentons les revenus de plus de 5%, l'inflation dépassera à nouveau 10%. C'est pourquoi je répète, comme je l'ai répété sans arrêt, et comme je continuerai à le répéter aussi longtemps que je serai chef de ce parti, et tant pis pour vous, aussi longtemps que je vivrai, l'inflation est l'ennemi du peuple et l'allié du chômage.
Un reportage de la télévision française diffusé en 1978. Est-ce que la victoire des conservateurs en mai 1979, Nathalie Champroux, est à imputer à la faillite des travaillistes ou plus largement aux difficultés économiques que traverse le Royaume-Uni à cette période ?
Il est impossible de détacher les facteurs les uns des autres. Il est absolument nécessaire pour comprendre l'économie d'un pays ou pour comprendre sa politique et les décisions de prendre tous les facteurs en compte. Et effectivement, il y a des facteurs économiques qui sont forts depuis les années 70, depuis le premier choc pétrolier, depuis l'abolition de Bretton Woods. Les économies sont très très perturbées, les économies de part et d'autre de l'Atlantique.
Alors il faut expliquer la fin du système de Bretton Woods, quelle implication économique est-ce que cela a ?
Alors c'est un système qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale et qui avait pour objectif de stabiliser les monnaies des différents pays entre elles. Le principe était que les monnaies s'équilibraient par rapport au dollar et le dollar lui-même avait une valeur fixe en or. Ce système prend fin une première fois en 1971 par la décision de Nixon et puis il est un petit peu reconstruit, rebâti et il reprend fin complètement en 1973 et là il n'y a plus de garde-fou pour permettre aux monnaies d'être stabilisées les unes par rapport aux autres.
C'est ce passage au régime des changes flottants après la fin du système Bretton Woods et aussi peut-être un certain nombre de décisions des travaillistes qui expliquent les difficultés économiques du Royaume-Uni au milieu des années 70. Marc Lenormand.
Alors, ce qui se passe au milieu des années 1970, c'est que effectivement, le gouvernement travailliste qui est au pouvoir entre 74 et 79 fait face à des attaques successives contre la monnaie nationale, qui est la livre sterling. Et donc, pour stabiliser la monnaie et regagner la confiance des investisseurs dans la livre sterling, le gouvernement travailliste cherche à démontrer son orthodoxie, sa capacité à bien gérer son budget et sa capacité à maîtriser l'inflation. Et donc ça passe par des décisions politiques qui sont de l'ordre d'une première réduction de la dépense publique. De ce point de vue-là, ce ne sont pas les gouvernements conservateurs qui initient la réduction de la dépense publique à partir de l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher, mais dès 1975, sous la pression également des investisseurs et des nouvelles idées économiques qui se font jour, les gouvernements travaillistes, qui commencent en fait à réduire la dépense publique. Et d'un autre côté, l'outil principal des travaillistes, et c'est ce qui amène à la crise de l'hiver 78-79, l'outil principal que se donnent les travaillistes pour essayer de maîtriser l'inflation, c'est ce qu'on appelle une politique de contrôle des revenus. C'est ce qu'on entendait là à l'extrait avec James Callaghan, qui est Premier ministre de 1976 à 1979, qui est la suite de Harold Wilson, met en place un plafonnement annuel des augmentations salariales que peuvent obtenir les organisations de travailleurs à un moment où l'inflation est elle-même très haute. Et donc c'est le principal outil qu'ont les travaillistes, et ça les met en fait en contradiction et en conflit avec leur base, à savoir les organisations syndicales qui soutiennent le parti travailliste alors au pouvoir.
Et on va voir que Margaret Thatcher propose bien autre chose pour lutter contre l'inflation. Mais d'abord, Nathalie Champroux, c'est cette politique donc de contrôle des revenus mis en place par les travaillistes qui entraîne cette période de conflits sociaux qu'on appelle également l'hiver de mécontentement entre 1978 et 1979.
Oui, tout à fait. Le gouvernement a une sorte d'accord, il y a un pacte social avec les syndicats qui consiste à ne proposer ou n'accorder que des augmentations de salaire réduites et limitées par ce gouvernement. Les négociations sont assez menées de façon relativement calme, et puis les choses s'enveniment parce que le gouvernement veut toujours réduire davantage ou imposer de nouvelles limites, et les syndicats finissent par ne plus l'accepter. C'est ce qui va conduire effectivement à une crise de l'hiver du mécontentement et qui va paralyser complètement le pays, qui s'arrête avec des grèves monumentales, et c'est ce qui va conduire effectivement le gouvernement conservateur à une rupture totale par rapport à ce modèle, qui va se débarrasser complètement du contrôle des prix et des salaires et instaurer une nouvelle politique monétaire.
Alors il y a une rupture dans le monde politique, on passe des travaillistes aux conservateurs, et aussi une rupture dans le monde intellectuel où on va passer d'un keynésianisme dominant à un courant de pensée qui prend de plus en plus d'ampleur, le courant de pensée néolibéral inspiré entre autres par Friedrich Hayek.
Tant que les gens qui déterminent à long terme l'opinion publique continueront à être attirés par les idéaux du socialisme, la tendance du totalitarisme socialiste continuera. Si nous voulons éviter un tel développement, nous devons être capables d'offrir un programme libéral neuf, qui attire l'imagination. Nous devons à nouveau rendre la création d'une société libre une aventure intellectuelle, un acte de courage. Ce qui nous manque, c'est une utopie libérale, un programme qui ne semble être ni une simple défense des choses existantes, ni une forme diluée du socialisme, mais un véritable radicalisme libéral qui n'épargne pas les susceptibilités des puissants, y compris les syndicats, qui ne soit pas strictement pratique et qui ne se confine pas à ce qui semble aujourd'hui politiquement possible. La leçon principale que le vrai libéral doit apprendre du succès des socialistes est que c'est leur courage d'être utopique qui leur a apporté le soutien des intellectuels et donc une influence sur l'opinion publique qui rend tous les jours possible ce qui semblait encore récemment tout à fait lointain. Mais si nous pouvons retrouver la croyance au pouvoir des idées qui était la marque du libéralisme à sa meilleure époque, la bataille n'est pas perdue. Le renouveau intellectuel du libéralisme est déjà en cours dans plusieurs parties du monde. Sera-t-il à l'heure au rendez-vous ?
Voilà un extrait de l'ouvrage de l'économiste Friedrich Hayek, « Les intellectuels et le socialisme », paru en 1949. Marc Lenormand, c'est un véritable programme de reconquête intellectuelle qu'il propose ici.
Oui, c'est-à-dire ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant toute une partie de l'après-guerre et même depuis les années 30, les idées qui sont alors formulées par Hayek, elles sont extrêmement marginales dans le monde intellectuel et dans l'université. Et donc ce qu'on appelle aujourd'hui néolibéralisme, c'est un mouvement intellectuel qui émerge en réaction au renforcement des idées politiques dirigistes et collectivistes dans les années 30, puis pendant les deux guerres mondiales, et qui se confirme à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et donc face à ce qui est à la fois une domination du collectivisme et du dirigisme, ou du moins ce qui est perçu comme tel par ces intellectuels libéraux, eh bien il y a cette volonté de reconstituer des réseaux intellectuels permettant de progressivement reconquérir l'opinion, à commencer par l'opinion intellectuelle, c'est-à-dire l'opinion universitaire, l'opinion journalistique, et puis ensuite l'opinion politique, et enfin l'opinion publique. Et c'est pourquoi Hayek, là, en 1947, juste après la Seconde Guerre mondiale, est à l'initiative de la création d'une organisation très importante, qui est la Société du Mont Pèlerin, qui est d'une certaine manière le premier réseau international qui va rassembler des intellectuels, des journalistes, des juristes, des hommes politiques, autour de la défense des idées libérales, dans leur radicalité, contre eux, ce qui est alors, on va dire, le consensus collectiviste, ou du moins ce qui est perçu comme tel par, à ce moment-là, ces critiques libéraux.
Et Margaret Thatcher va faire partie de cette société du Mont Pèlerin ?
Alors, Margaret Thatcher, elle ne fait pas partie de la société du Mont Pèlerin, mais elle sera et elle est nourrie par les idées, tout particulièrement par les idées de Friedrich Hayek. En revanche, de son côté, ce que je disais précédemment, elle a aussi contribué à développer, à faire avancer les idées politiques néolibérales en créant en 1974 un think tank qui s'appelle le Center for Policy Studies, qu'elle donc crée et avec un autre membre proéminent de l'aile droite du Parti conservateur qui est Keith Joseph. Et c'est donc la création d'un think tank qui doit servir justement à développer des idées pour imaginer ce que pourrait être un gouvernement conservateur réellement engagé du côté du libéralisme. Et cette création d'un think tank, elle est aussi à comprendre parce qu'à ce moment-là, le Parti conservateur, il est lui-même encore attaché à ce qu'on appelle le consensus d'après-guerre, à des formes de compromis social, des formes de compromis de classe, et que ce qui aurait pu être l'instance d'émergence d'idées, de nouvelles idées libérales, à savoir le service recherche du Parti conservateur, est encore perçu par des gens de l'aile droite du Parti conservateur comme un petit peu trop modéré, trop mou ou incapable de formuler des propositions de la radicalité appelée par Friedrich Hayek.
Et ce qui est intéressant, c'est de constater que cette montée en puissance des idées néolibérales, Nathalie Champroux, existe et se passe de la même façon peut-être du côté des États-Unis où les années 80 vont être marquées par le consensus de Washington établi sous l'administration Reagan.
Oui, alors tout à fait. On voit ici de part et d'autre de l'Atlantique les mêmes idées qui se développent. Alors effectivement, cela arrive d'un point de vue, j'allais dire, gouvernemental un peu plus tard avec Ronald Reagan. Mais on avait déjà, si on considère uniquement la politique monétaire, en 1979, on avait déjà à la Fed un mouvement qui montait vers des attitudes monétaristes et de restriction et qui vont être marquées par l'arrivée de Volcker à la présidence de la Fed.
Arrêtons-nous un instant peut-être sur ce terme de néolibéralisme. D'où vient-il, Marc Lenormand ? À quel moment on en aperçoit les premières occurrences ?
Alors, là-dessus, il y a eu un certain nombre de travaux, et je m'appuie particulièrement sur les travaux de Gilles Christophe sur le sujet. L'émergence est graduelle, cette émergence du terme néolibéral. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'origine, ce terme néolibéral, c'est un des termes qui est essayé par tous ces intellectuels libéraux qui, dans les années 30, essaient de penser un programme politique de lutte contre le dirigisme et contre le collectivisme. Et à ce moment-là, c'est surtout d'ailleurs des personnes associées à ce qu'on appellera plus tard l'ordolibéralisme, hein, ou l'économie sociale de marché dans sa version allemande, qui se pensent comme éventuellement des néolibéraux ou qui essaient de ce terme de néolibéralisme pour distinguer leur nouvelle conception du libéralisme classique du 19e siècle, caractérisé essentiellement par le laisser-faire. Et par rapport à ça, le néolibéralisme, dès son origine, il y a l'idée que ce n'est pas seulement du laisser-faire, mais que ça va être une mobilisation de l'État, d'un État activiste, soit pour corriger les excès du libéralisme. Ça, c'est une des versions dans, on va dire, le néolibéralisme de la première génération.
Ça, c'est l'idée de l'ordolibéralisme qui veut peut-être entourer, encadrer la concurrence, par exemple.
Tout à fait. Ça, c'est l'idée, on va dire, de cette première génération d'intellectuels. Et après, ce qui se passe au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'il y a ce qui a été pu être appelé une radicalisation du néolibéralisme, et avec là une deuxième génération d'intellectuels, tout particulièrement à la suite de Friedrich Hayek, qui, eux, cette fois-ci, pensent un rôle de l'État et d'un État activisme, mais d'un État activiste pour l'imposition d'un ordre concurrentiel. Et donc, ce que je veux dire, c'est que cette notion de néolibéralisme, elle trouve son origine dans des débats internes au libéralisme, même si après, dans la seconde moitié du XXe siècle, et au tournant du XXIe siècle, elle a été tout particulièrement mobilisée, on va dire, par une gauche intellectuelle pour former un diagnostic et une analyse d'un ensemble de politiques menées par les gouvernements Thatcher et Reagan tout particulièrement qu'ils souhaitaient critiquer.
C'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement ce terme de néolibéralisme est surtout utilisé par ceux qui le dénoncent, Nathalie Champroux.
Oui, exactement. C'est devenu un terme très péjoratif, finalement. Alors que, comme le disait mon collègue Marc Lenormand, il trouve ses racines dans donc le libéralisme classique du 19e siècle, qui a pour objectif de rendre sa liberté à l'individu par rapport à une autorité de l'État, une autorité du gouvernement ou éventuellement du roi. Il y a toujours un objectif économique derrière cela, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que le prince va pouvoir lever l'impôt qu'il veut. Donc on a ici des racines qui sont très anciennes. Et puis, on a en partie oublié ses racines anciennes. L'un des grands noms du libéralisme est aussi Adam Smith, avec l'idée de la main invisible qui doit, qui s'occupe de l'économie et qui fait que finalement les États ont moins besoin d'intervenir. Ce sont des choses qu'on a un petit peu oubliées. On est resté au néolibéralisme incarné par Margaret Thatcher, une figure importante, une figure dure, une figure exigeante et intransigeante, qui a tant marqué son histoire que on a gardé finalement que l'aspect péjoratif du terme.
On va voir comment se traduit concrètement en politique économique ce néolibéralisme. Mais d'abord, Marc Lenormand, vous distinguez deux définitions du néolibéralisme, l'une qui serait plutôt marxiste et l'autre foucauldienne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ?
Oui, voilà, c'est-à-dire qu'à nouveau, donc le néolibéralisme a fait l'objet d'un travail de définition principalement par la gauche critique qui s'en est emparée pour essayer de comprendre, d'analyser et de critiquer ces politiques publiques. Et aujourd'hui, dans les discussions et dans les grandes discussions autour du néolibéralisme et de ce qu'on peut appeler par ce nom, il y a deux grandes définitions. D'un côté, une définition marxiste, alors qui est tout particulièrement, si les auditeurs, les auditrices veulent se référer à des ouvrages, on peut penser à l'ouvrage de David Harvey, hein, le géographe radical, qui dans sa brève histoire du néolibéralisme, envisage réellement le néolibéralisme comme un projet de restauration du pouvoir des classes dominantes. Donc là, c'est une analyse qu'on va dire marxiste, où là, on envisage véritablement le néolibéralisme comme une espèce de projet hégémonique pour reconfigurer l'ensemble de la société. Et puis, il y a une autre définition qu'on dit foucauldienne, qui est trop particulièrement développée par, je pense par exemple à l'anthropologue Jamie Peck, où là, dans ce qu'on appelle néolibéralisme, on va plutôt s'intéresser à tout un ensemble de dispositifs, de techniques de gouvernement visant à, ce qu'on va dire, conduire les conduites. Donc ça, c'est une expression qui est reprise à Michel Foucault. Mais c'est l'idée qu'il n'y a pas forcément de grande cohérence d'un projet hégémonique, mais tout un ensemble de dispositifs qui amènent progressivement à transformer les dispositions des individus et à, on va dire, d'une certaine manière, les socialiser dans une culture de marché et dans une logique contractuelle.
Kind people have a wonderful dream. Margaret,
France Culture. Entendez-vous l'écho? Tiphaine de Roquigny.
'Cause people like you make me feel so tired. When will you die? 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 And people like you make me feel so old inside. Please die. Unkind people, do not shelter this dream. Make it real. Make the dream.
Margaret and the Guillotine de Morisset sur France Culture dans Entendez-vous l'écho, un titre sorti en 1988 par l'ancien chanteur des Smiths, un an après la séparation du groupe. Nathalie Champroux et Marc Lenormand sont toujours avec nous pour parler du tournant néolibéral des années 80 au Royaume-Uni. Et parmi les grandes figures dont se réclame Margaret Thatcher, on trouve Milton Friedman et sa théorie quantitative de la monnaie.
Le premier pas vers la compréhension de la cause de l'inflation est de reconnaître qu'il s'agit toujours et partout d'un phénomène monétaire. C'est toujours et partout le résultat de trop d'argent, d'une augmentation plus rapide de la quantité de monnaie que de la production. De plus, à l'ère moderne, la prochaine étape importante consiste à reconnaître que les gouvernements contrôlent la quantité de monnaie, si bien que l'inflation aux États-Unis se produit à Washington et nulle part ailleurs. Bien entendu, aucun gouvernement, pas plus que quiconque, n'est prêt à assumer la responsabilité de mauvaises choses. Nous sommes tous humains. Si quelque chose de grave se produit, ce n'est pas de notre faute. Le gouvernement est pareil. Il n'accepte donc pas la responsabilité de l'inflation.
L'économiste américain Milton Friedman, lors d'une conférence à l'université de San Diego, c'était en 1977. L'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire, nous dit ici Friedman. Qu'est-ce que ça signifie, Nathalie Champroux ?
Alors justement, c'est tout à fait la notion qu'on a derrière le monétarisme. On peut interpréter le monétarisme de différentes façons. On peut attribuer à cette doctrine différentes significations. Mais ce qui est sûr et certain pour Friedman et puis pour Margaret Thatcher et ses gouvernements, et qui est resté vrai aujourd'hui, c'est qu'il s'agit d'un phénomène purement monétaire. Donc finalement, il ne sert à rien d'essayer de contrôler les prix ou d'essayer de contrôler artificiellement des salaires. Il faut s'occuper de la masse monétaire en circulation, c'est-à-dire de cette quantité de monnaie qui circule à l'intérieur d'une économie. Pour Friedman, cette quantité de monnaie en circulation, lorsqu'elle croît trop vite, c'est-à-dire lorsqu'elle croît trop vite par rapport à la production, par rapport à la croissance du PIB, est créatrice d'inflation et uniquement d'inflation, et pas de plus de croissance comme on aurait pu le croire avant.
C'est pour ça que pour lui, l'augmentation de la quantité de monnaie en circulation ne va pas produire d'effets bénéfiques durables sur l'économie, Marc Lenormand, des effets bénéfiques ponctuels peut-être, mais pas durables.
Oui, c'est de ce point de vue-là que Milton Friedman, d'une certaine manière, procède au renversement complet de ce qui était devenu, en fait, le consensus intellectuel depuis la Grande Dépression des années 30. À savoir l'idée que ça aurait été donc le capitalisme et ses défauts et ses échecs qui seraient à l'origine de la crise. Là où Friedman renverse complètement la logique, c'est de dire que c'est le gouvernement, c'est l'interventionnisme des États qui est à l'origine des problèmes économiques et en tout particulier de l'inflation. Et donc, par rapport à ça, ce que Friedman propose, c'est au lieu d'un État qui imprime de la monnaie pour mener des politiques de relance, c'est au contraire d'un État qui va réduire fortement la quantité de monnaie émise.
Et alors, c'est là-dessus que va s'appuyer Margaret Thatcher pour mener sa politique monétaire. Nathalie Champroux, quelle forme est-ce que cela va prendre ?
Alors, elle va prendre la forme de la stratégie financière à moyen terme. Et je tiens à dire que Margaret Thatcher, finalement, n'est pas la personne qui est à l'origine des doctrines et de l'idée et de la théorie. Elle n'est pas non plus l'architecte de cette stratégie et de ce plan. C'est un plan qui est un petit peu ancien, qui a été construit par Alan Budd, qui est un économiste qui est à l'école d'économie de Londres, et ce plan va être repris par différentes personnes, dont Nigel Lawson, dont Jeffrey Howe, qui est le ministre des Finances de Margaret Thatcher, et ils vont établir une véritable stratégie sur plusieurs années de réduction de la croissance de la masse monétaire, mais également de réduction des dépenses publiques, c'est-à-dire de réduction des besoins d'emprunt public de l'État.
Et cela, ça passe par une hausse des taux directeurs. On augmente les taux directeurs pour faire baisser la masse, la quantité de monnaie en circulation, Nathalie Champroux.
Exactement. Alors, il y a deux volets. Il y a d'un côté le fait de vouloir réduire cette masse monétaire qu'on va essayer de mesurer par des indicateurs. Le premier et le préféré au départ, c'est le fameux Sterling M3, qui est une mesure de cette masse monétaire. On va lui fixer des objectifs. Et pour qu'il atteigne ces objectifs, on va effectivement augmenter les taux d'intérêt de façon à réduire l'argent qui sera en circulation dans l'économie.
Et alors, est-ce que cette politique va faire ses preuves, Marc Lenormand ? Parce que en 1980, le Royaume-Uni connaît encore une inflation qui monte jusqu'à 18%.
Alors, pour ce qui est de faire ses preuves, c'est-à-dire ce qui est compliqué, c'est de distinguer ce qui pourrait être attribuable de manière stricte à cette politique monétaire. Ce qu'il faut voir, c'est que la façon dont les gouvernements conservateurs qui arrivent au pouvoir en 1979 abordent les choses n'est pas sous la forme de l'application stricte des préceptes de Milton Friedman, à savoir d'un contrôle de l'inflation de manière prédominante par le contrôle des émissions de monnaie par la Banque centrale d'Angleterre, qui à l'époque est encore contrôlée par le gouvernement. Donc il y a tout un ensemble de politiques qui sont mises en place, dont également des politiques de réduction de la dépense publique, dont des politiques de d'augmentation de l'imposition indirecte et de réduction de la dépense directe, donc tout un, je veux dire, tout un ensemble de dispositifs qui vont contribuer aussi à réduire l'inflation, mais parce que un des moyens, ou du moins un des biais par lesquels passe cette réduction progressive de l'inflation, c'est par une amplification de la récession, enfin du moins de la dépression économique qui à ce moment-là touche le Royaume-Uni. Donc c'est d'une certaine manière une forme de thérapie de choc qui est appliquée à ce moment-là par le gouvernement Thatcher en baissant la dépense publique et en augmentant les impôts indirects à un moment où l'économie britannique, surtout particulièrement son secteur exportateur, doit faire face déjà à de grandes difficultés dans un contexte mondial de récession.
Une thérapie de choc qui va creuser les inégalités et qui sera même critiquée par Milton Friedman lui-même, Nathalie Champroux.
Oui, exactement, parce que Milton Friedman avait sa croyance dans le fait que l'inflation était un phénomène monétaire uniquement, et il avait mis en garde les gouvernements contre une politique qui serait trop restrictive et qui aurait des conséquences sociales dramatiques. Et puis, il souhaitait aussi que ne soient pas éventuellement mises dans, le même panier, les politiques fiscales, budgétaires et les politiques monétaires. Et ici, finalement, les gouvernements, les premiers gouvernements Thatcher, vont tout mélanger et faire feu de tout bois pour essayer de réduire cette inflation galopante.
Mais pourquoi est-ce que Milton Friedman pense que la fiscalité, l'outil fiscal, n'est pas un outil de lutte contre l'inflation, alors même que ce qu'on constate dans les années 80, comme le disait Marc Lenormand, c'est que l'inflation diminue?
L'inflation effectivement a diminué, mais il faut tenir compte aussi de la conjoncture internationale, du fait que finalement elle diminue partout. Et puis il faut tenir compte aussi des bouleversements qui ont eu lieu dans le secteur financier, dans le secteur bancaire. Les conditions de crédit ne sont plus du tout les mêmes. Ça signifie que la structure même de l'économie va être bouleversée et que l'inflation finalement réagit à ces bouleversements.
Alors il faut expliquer que Margaret Thatcher met en œuvre véritablement une dérégulation du marché bancaire qui va entraîner une hausse de la monnaie en circulation. Comment est-ce que cela se passe, Nathalie Champroux?
Oui, effectivement, dans les premiers temps, c'est ce qui va se produire, c'est-à-dire qu'on va supprimer ce qu'on appelle le corset, qui est tout un ensemble de mesures qui a tendance à restreindre le crédit. Et on va aussi supprimer, par exemple, les actifs en liquidité que devaient garder les banques qui étaient de 12% des crédits qu'elles octroyaient. Donc on va libérer considérablement le crédit. Ça signifie bien évidemment que les entreprises vont emprunter plus pour investir, mais également que les particuliers vont pouvoir dépenser davantage. Mmh. Ces différentes mesures ont créé un gonflement de la masse monétaire qui a donc augmenté. L'inflation a elle-même également augmenté. Et puis il faut savoir qu'il y avait aussi des promesses de campagne qui avaient été faites, et notamment en promesse de campagne d'augmenter les salaires de la fonction publique, et il a fallu honorer ces promesses. Donc dans un premier temps, un certain nombre de mesures se sont télescopées, ont été contradictoires et n'ont pas permis d'atteindre l'objectif attendu, malgré un coût social très important, avec des taux d'intérêt qui sont montés à 18%, ce qui était énorme.
On peut se demander si cette diminution de l'inflation, Marc Lenormand, doit être imputée à la politique monétaire menée par le gouvernement Thatcher ou, comme le disait Nathalie Champroux, à d'autres facteurs macroéconomiques.
C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'il faut voir, c'est que même si à l'époque, d'ailleurs, ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme thatcherien ou même le thatcherisme, est souvent nommé du nom de monétarisme. C'est nommé du nom de monétarisme par beaucoup de commentateurs, qu'ils soient favorables ou hostiles aux politiques menées par le gouvernement Thatcher, parce qu'à l'époque, Milton Friedman, qui est donc un des promoteurs de la doctrine, pour le coup, économique du monétarisme, est aussi un intellectuel très médiatique. Hein, il a reçu en 1976 donc l'équivalent du prix Nobel pour l'économie. Et à la fin des années 70, il anime également une émission de télévision extrêmement populaire intitulée Free to Choose. Donc cet ensemble de nouvelles idées en matière de politique monétaire, mais aussi de politique fiscale, ou même de rôle de l'État dans l'économie, sont associées à pour bonne partie à sa personne, à son nom et à ses idées. Et donc on en vient à parler de monétarisme pour parler des idées et des politiques mises en œuvre par le gouvernement de Thatcher. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que fait Thatcher, ce n'est pas l'application stricte d'un seul précepte qui serait celui de la réduction de la quantité de monnaie émise par la Banque Centrale, mais qui a tout un ensemble très large de politiques qui sont mises en place. Il y a effectivement cette politique monétaire de réduction de l'émission de monnaie, mais il y a également une politique fiscale qui, là, pour le coup, n'est pas une innovation thatcherienne, mais est, en une certaine manière, aussi une continuité de la période précédente, puisque la politique fiscale, à savoir la baisse ou l'augmentation des impôts pour favoriser ou, au contraire, réduire la demande et la consommation, était déjà un outil central pour les gouvernements qui ont précédé Margaret Thatcher.
Et c'est cela que Friedman reproche d'ailleurs à Thatcher, c'est de garder un petit peu cette logique fiscale qui avait caractérisé l'après-guerre.
Oui, là, il y a un épisode, effectivement, où parmi les premiers documents produits par le gouvernement conservateur en 1980, il y a donc un document de discussion qui s'appelle Monetary Control, donc le contrôle monétaire, dans lequel il est affirmé que la politique fiscale serait le principal outil de lutte contre l'inflation. Et donc, pour Friedman, qui réagit de manière assez brutale en disant « mais c'est incompétent, c'est un document écrit par des étudiants », pour lui, en vérité, ça consiste ça voudrait dire que les nouveaux gouvernements conservateurs au pouvoir n'auraient absolument rien compris à ces préceptes, qui sont de dire que l'inflation, elle est liée fondamentalement à la quantité de monnaie qui circule dans l'économie, là où le gouvernement conservateur, ici, semble réaffirmer cette idée plus ancienne, ou du moins cette idée qui prévalait sous les gouvernements keynésiens, à savoir que la fiscalité, tous ces dispositifs qui constituent à augmenter ou à réduire la consommation, sont au centre de la gestion économique. Donc on peut l'interpréter de manière différente. Soit ça veut dire que, fondamentalement, le gouvernement conservateur de Margaret Thatcher n'est pas véritablement monétariste, ou qu'il n'a pas lu ces influences intellectuelles qu'on lui attribue généralement. Mais ce qu'on peut aussi y voir, et c'est une autre façon de le comprendre, c'est que Margaret Thatcher, elle arrive au pouvoir avec ce programme relativement radical de transformation économique du Royaume-Uni, mais qu'elle est entourée par un gouvernement conservateur qui, lui, n'est pas acquis à ses idées de transformation radicale de l'économie britannique, et que ces idées, elles sont également, et ces politiques, elles sont mises en œuvre par des ministères et par des hauts fonctionnaires qui, eux, sont encore imprégnés de cette culture d'après-guerre, de gestion de l'économie, en jouant tout particulièrement sur le levier qui est celui de la consommation.
Quelle hypothèse choisiriez-vous, Nathalie Champroux, cette idée que, finalement, Margaret Thatcher n'était pas si monétariste que cela, ou cette idée qu'elle n'a pas réussi à mener à la politique économique radicale qu'elle aurait souhaité mettre en œuvre?
J'aurais tendance à penser que elle est arrivée au pouvoir avec effectivement des idées assez radicales et que elle a utilisé tous les instruments dont elle disposait pour atteindre ses fins. L'objectif était vraiment la réduction de l'inflation. Ici, il y avait une réelle rupture par rapport aux politiques précédentes où l'objectif des gouvernements était plutôt de rechercher le plein emploi ou au moins de réduire le chômage. Ici, ça n'est plus son objectif. L'objectif, c'est la réduction de l'inflation. De l'autre côté, elle souhaite aussi faire reculer l'État. Elle souhaite une forme de désinvestissement parce qu'elle estime que finalement, plus l'État a investi, moins les entreprises elles-mêmes ont investi. Il faut rendre le marché aux entreprises. Donc, je dirais de façon un peu triviale, elle fait d'une pierre deux coups. Et en enlevant de l'argent public de la circulation, elle pense réduire la masse monétaire dans son ensemble.
Et puis sa radicalité évolue aussi dans sa relation, dans la relation qu'elle entretient avec l'Europe. On connaît la Margaret Thatcher de la célèbre formule « I want my money back », formule prononcée le 30 novembre 1979. On connaît moins ce discours de Bruges prononcé le 20 septembre 1988.
Mr. Chairman, you have invited me to speak on the subject of Britain and Europe.
Vous m'avez invité à parler de la Grande-Bretagne et de l'Europe. Je devrais peut-être vous féliciter de votre courage. Si vous croyez certaines choses qu'on raconte ou qu'on écrit au sujet de mon opinion sur l'Europe, c'est presque inviter Genghis Khan à parler des vertus de la coexistence pacifique. La communauté européenne appartient à tous ses membres et doit pleinement refléter les traditions et aspirations de chacun. Et je tiens à préciser que la Grande-Bretagne ne songe nullement à une autre formule que la communauté européenne, à une existence douillette et isolée en marge. Notre destin est en Europe, car nous sommes membres de la communauté. Cela ne signifie pas qu'il se limite à l'Europe, pas plus que celui de la France, de l'Espagne et de tous les autres États membres. La communauté n'est pas une fin en soi.
Marc Lenormand, comment est-ce qu'on peut résumer le rapport de Margaret Thatcher au marché européen, à la communauté européenne ?
Alors, c'est un rapport qui évolue, mais qui, sur le plan du rapport au marché, demeure un rapport, on l'a entendu ici, un rapport extrêmement favorable. C'est-à-dire que Margaret Thatcher, elle a fait partie du gouvernement conservateur d'Edward Heath, qui a fait entrer le Royaume-Uni dans l'Union européenne au 1er janvier, enfin dans ce qui était encore à l'époque, excusez-moi, la communauté économique européenne au 1er janvier 1973. En 1975, lors du premier référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à la communauté économique européenne, elle a fait campagne pour le maintien du Royaume-Uni dans la communauté économique européenne et elle demeure fondamentalement convaincue des bénéfices économiques pour le Royaume-Uni de la participation du pays à la communauté. En revanche, ce qui se passe là dans la seconde moitié des années 1980 et ce qui est ici illustré par ce discours de Bruges, c'est que l'Europe à ce moment-là prend, on va dire, un double tournant qui est tout d'abord un tournant social, tout particulièrement sous la présidence de Jacques Delors, alors président de la Commission européenne. Il y a ce volant social de la communauté économique européenne qui se développe et qui est vu d'un mauvais œil par le gouvernement conservateur. Et d'un autre côté, le discours de Bruges porte tout principalement sur ce qui est alors une crainte de la part de Margaret Thatcher et de l'aile droite du parti conservateur, à savoir l'émergence d'un super-État ou d'un État fédéral au niveau européen. Donc là, je pense qu'il voilà, il faut dissocier entre d'un côté les bénéfices perçus du marché commun et de la concurrence européenne, mais d'un autre côté, une hostilité au programme d'intégration politique plus avancée vers des formes de fédéralisme.
Et il faut peut-être aussi distinguer entre le rejet britannique d'une monnaie unique européenne et en même temps le fait que le Royaume-Uni va accepter à contre-cœur d'indexer la livre sur la Deutsche Mark, justement pour lutter contre l'inflation, Nathalie Champroux, et participer ainsi à ce système monétaire européen.
Oui, c'est arrivé beaucoup plus tardivement. Effectivement, l'extrait que nous avons entendu là date de 1986.
En 1988.
Donc 2 ans après la création du marché unique, qui quand même s'est fait en grande partie grâce à Margaret Thatcher et aux Britanniques qui ont poussé pour la création de ce marché unique, parce que l'union douanière ne suffisait plus, elle ne s'appliquait qu'aux produits. Et ici, les Britanniques qui développaient énormément leurs services financiers et leur secteur financier avait besoin de davantage. Lorsque le Royaume-Uni place sa monnaie dans le mécanisme de change européen, nous sommes donc en 90, c'est beaucoup plus tard.
Il va le faire. Un mois avant la démission de Margaret Thatcher.
Exactement, et sans doute trop tard pour Margaret Thatcher, puisque finalement ça ne lui rapportera plus rien. Cela va temporairement calmer une aile de son parti qui était favorable à davantage d'intégration européenne. Mais effectivement, c'est beaucoup trop tard.
Et ça permet de stabiliser la monnaie ?
Alors on est à une période où le Royaume-Uni rentre à nouveau dans une récession qui va durer 2 ans, qui va être très sévère, beaucoup plus sévère que celle du début des années 80. Et les gouvernements, le gouvernement à ce moment-là est un petit peu interloqué par la situation, ne sait plus très bien vers quoi se tourner. Il va y avoir une hésitation entre le ciblage direct de l'inflation, ce qu'on connaît aujourd'hui, et puis l'appartenance au mécanisme de change européen. Et c'est finalement celui-ci qui va être choisi, puisqu'on est en pleine négociation encore du traité de Maastricht à ce moment-là. Et l'entrée de la livre dans le mécanisme européen est perçue par les Britanniques et par John Major, le ministre des Finances, à tort, comme une monnaie d'échange qui va permettre de négocier le protocole d'exemption à l'Union monétaire européenne concernant le Royaume-Uni.
Alors on approche du terme de cette émission. En tout, Margaret Thatcher effectue donc 3 mandats avant sa démission en novembre 1990. Quel bilan économique est-ce qu'on peut tirer de ces 11 années au pouvoir, marquées, on l'a dit, notamment par la libéralisation des activités bancaires et financières et une vague de privatisation sans précédent? Je vous propose d'abord d'écouter le point de vue de l'historien et désormais député Les Républicains, Jean-Louis Thiriot.
L'économie britannique est redevenue dynamique, est redevenue créatrice d'emplois, l'inflation est globalement maîtrisée et les services ont remplacé les industries vieillissantes. Ça, c'est incontestable. En matière sociale, 90% de la population a bénéficié de l'ère Thatcher avec notamment un gros développement de la propriété privée des logements et 10% de la population, les 10% les plus pauvres, ont perdu 17% de revenus. Donc après, là, ça n'est plus une question d'historien, c'est une question politique. Il y a 90% de la population qui en en a bénéficié, 10% qui a perdu. Enfin, la Grande-Bretagne a retrouvé une place dans le monde qu'elle avait évidemment perdue. Et la plus grande victoire de Margaret Thatcher, c'est que finalement, ses adversaires, d'une certaine manière, et Tony Blair, ont repris son programme. Et Tony Blair disait, nous sommes tous devenus Thatcher.
Un bilan économique globalement positif pour Margaret Thatcher. Nathalie Champroux, vous êtes d'accord avec cela ?
Si l'on regarde les fondamentaux, oui, il y a eu des périodes de croissance qui ont été beaucoup plus longues pendant la période Thatcher qu'elles ne l'ont été auparavant. Le cycle économique, finalement, a été très étendu, très étiré, mais il s'est étiré entre deux récessions, comme je vous le disais, qui ont été très vives et qui ont créé de gros dégâts sur la population. Le reportage que nous venons d'entendre faisait aussi état de l'emploi. Si on regarde à nouveau les chiffres, et juste les chiffres, hein, on constate qu'il y a eu des créations d'emplois très importantes, avec une progression de 9% en 87 et 88.
Mais une explosion du chômage, tout de même.
Mais voilà, mais aussi une explosion du chômage. Alors même si on constate que le chômage était à 4,5% en 79 et à 5,9% en 1990... Alors bien évidemment, il faut
avec
tenir
un pic
compte
à près de 12% en 1986.
Voilà, il faut tenir compte de ce qui se passe entre les deux, et il faut tenir compte également de la façon dont on calcule les taux de chômage qui peuvent varier d'une année à l'autre. Donc les chiffres ne sont pas toujours comparables les uns avec les autres. Ce qu'on constate de toute façon, effectivement, c'est le creusement des inégalités, mais globalement une économie qui finalement a réussi à rebondir malgré la désindustrialisation créée par le recul des syndicats et les décisions thatchériennes. On a eu ici un développement notamment des services qui a permis au Royaume-Uni, bon an mal an, de rebondir.
Une économie qui va renouer avec la croissance pendant une période extrêmement longue à partir de 93, Marc Lenormand, 3 ans après la démission de Margaret Thatcher. Alors est-ce qu'il faut imputer cela à la première ministre britannique ? C'est la question.
Alors, je pense que là, un des risques, évidemment, c'est d'avoir un regard exclusivement britannique sur la question. Là où, comme Nathalie Champroux l'a souligné, la situation de l'économie britannique, elle est aussi soumise aux cycles économiques internationaux, hein, et à la fois au cycle de récession du tournant des années 80 et du début des années 90, mais aussi les cycles d'expansion de la fin des années 80 et la fin des années 90. Donc, je pense que là, il faut effectivement, de ce point de vue-là, mettre aussi en perspective les politiques économiques spécifiques menées par le gouvernement. Les gouvernements Thatcher. En revanche, ce qui est certain, c'est que là où il y a une double victoire du thatchérisme et de Margaret Thatcher, c'est à la fois une victoire politique, où là c'était effectivement bien dit par la personne interrogée, il y a effectivement une victoire politique qui consiste à ce que d'élection en élection, de défaite travailliste en défaite travailliste, les travaillistes viennent à accepter pour bonne partie le nouveau consensus thatchérien. Et il y a ensuite effectivement une victoire sociale contre l'ennemi de classe, contre le syndicalisme et tout particulièrement contre le syndicat des mineurs qui était la fraction du mouvement ouvrier la mieux organisée. Mais une victoire sociale qui s'est faite quand même à un coût énorme, hein, à savoir la destruction d'un secteur industriel entier. Et au milieu des années 1990, Grindthorpe, dans le Yorkshire, qui était donc une ancienne communauté minière, était tout simplement la localité la plus pauvre d'Europe. Donc il y a aussi comme ça cet héritage quand même à long terme de désindustrialisation et d'extrême pauvreté dans les anciennes régions industrielles.
Et c'est l'heure de retrouver Xavier Martinet et son journal de l'écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Le Brésil pourrait adhérer à l'organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP. Si c'était le cas, il serait de facto le troisième producteur le plus important du groupe.
Alors, en tout cas, c'est la volonté du président brésilien Bolsonaro qui déclarait hier à Riyad souhaiter, je cite, personnellement que le Brésil devienne un membre de l'OPEP. Réponse, selon l'agence Bloomberg, à une invitation informelle de l'Arabie Saoudite à rejoindre l'organisation qui compte déjà pour 42% de la production mondiale de pétrole. Cette invitation est aussi le reflet et aussi et d'abord peut-être de la place prise par le Brésil sur le marché international. Il serait effectivement, s'il entrait dans l'OPEP, le troisième producteur du groupe devant les Émirats Arabes Unis, le groupe qui produit déjà plus de 24 millions de barils par jour, plus que les États-Unis et Russie réunis. Pour l'Arabie Saoudite, donc, qui est au centre de l'organisation, c'est une manière de peser mondialement, mais aussi de contrôler le Brésil en l'incluant dans l'accord de limitation de la production qui sert à maîtriser les prix, hein, conclu avec la Russie également. Mais pour le Brésil, en pleine montée en puissance, les bénéfices d'une adhésion sont moins clairs, explique Francis Perrin.
Le Brésil produisait 2 700 000 barils par jour de pétrole il y a plusieurs mois. Il est aujourd'hui à 3 100 000 barils par jour. Donc la progression continue et ça ne va pas s'arrêter là. Elle va continuer à monter en puissance du fait de ces développements de champs très importants, de très grande taille, dans l'offshore profond et très profond, dans les bassins notamment de Santos et de Campos. Et donc il est logique de la part de l'OPEP de lui proposer de rejoindre l'organisation, alors que nous avons sur le marché pétrolier actuellement des facteurs baissiers, qui sont notamment le ralentissement de la croissance économique mondiale, les tensions commerciales sino-américaines, et l'augmentation continue de la production pétrolière des États-Unis avec le pétrole de schiste. Ensuite, est-ce que le Brésil répondra à cette invitation au-delà de M. Bolsonaro, qui a donné une réponse politique parce qu'il était sollicité par les dirigeants saoudiens au cours de cette réunion? J'imagine que les milieux économiques et pétroliers au Brésil, ministères, sociétés nationales, vont examiner évidemment avec beaucoup de prudence cette offre d'adhésion, parce que le Brésil a suffisamment de difficultés pour ne pas vouloir limiter son potentiel de croissance de sa production et de ses exportations pétrolières dans les années qui viennent.
Francis Perrin, directeur de recherche à l'IRIS. Rien n'est fait, Xavier, puisque le président Bolsonaro doit désormais convaincre son gouvernement et les pétroliers brésiliens.
Oui, d'abord le géant pétrolier Petrobras, et ce ne sera pas la chose la plus facile. On se souvient ou pas que la compagnie nationale Petroleo Brasileira SA avait déjà rejeté l'idée d'une adhésion à l'OPEP, et le Brésil s'apprête d'ailleurs à lancer de nouvelles enchères pour ces champs pétrolifères offshore le 6 novembre, inventés par Bolsonaro. Une limitation de la production pourrait donc détourner les potentiels acheteurs. Interrogé hier par Reuters pour savoir si le prix demandé était trop élevé pour ces enchères, le PDG de Repsol Sinopec Brasil répondait « Nous ne participons pas aux enchères », ce qui devrait vous donner la réponse.
On passe au bref, la tentative de fusion de PSA avec Fiat Chrysler officiellement confirmée aujourd'hui. Les marchés saluent et les gouvernements montrent un enthousiasme prudent.
Oui, des deux côtés des Alpes, ils s'inquiètent notamment des conséquences sur l'emploi, même si les deux groupes ont déjà affirmé que la fusion qui permettrait de fabriquer la quatrième entité mondiale en automobile économiserait 3,7 milliards d'euros, mais se ferait sans fermeture d'usine. Eh bien, dès hier soir, le ministre de l'économie italien Gualtieri déclarait qu'il serait vigilant. Le vice-ministre de l'économie et le président du conseil Giuseppe Conte insistait ce matin sur la préservation des 60 000 emplois de Fiat Chrysler en Italie. Même souci en France de conserver l'empreinte industrielle, dit Bruno Le Maire ce matin. Et même s'il accueille favorablement l'annonce d'un nouveau groupe capable de financer un début d'Europe des batteries que la France souhaite faire naître, eh bien d'autres motifs troublent les membres du gouvernement français, comme par exemple la localisation du futur siège aux Pays-Bas.
Boeing toujours en pleine crise de confiance avec les autorités et ses clients. Un autre exemplaire du 737 est immobilisé pour raison de sécurité.
Oui, là, ce sont 50 exemplaires du 737NG, une version précédente de 737 Max, qui appartiennent à des compagnies chinoises, coréennes ou australiennes, immobilisées en raison de fissures structurelles découvertes sur une partie critique de l'appareil, à savoir la structure en forme de fourchette qui relie le fuselage aux ailes. Depuis le début du mois, 5% du millier d'appareils examinés a révélé ce type de défaut, plaide Boeing, et beaucoup de compagnies en Europe, c'est vrai, ont déclaré n'avoir pas détecté de problèmes sur leurs appareils, mais ces nouveaux doutes sur la conception des avions tombent mal en pleine crise du 737 Max et alors que le PDG de Boeing vient de passer deux auditions plutôt dures devant le Congrès américain.
Et pour finir, on l'annonçait cette semaine, la récession à Hong Kong, un PIB en baisse de 3,2% au troisième trimestre.
Et vous avez tout dit, Tiffany, ou presque, avec 0,6% au premier trimestre et une baisse là de 0,4% au deuxième et 3% de hausse l'année dernière. Et bien si la croissance au quatrième trimestre ne dépasse pas 3%, l'année 2019 sera globalement une année de récession pour Hong Kong.
Yeah.
On se quitte avec Black Dove de Tibbs avec Soudan Archives. Merci beaucoup Nathalie Champrou et Marc Lenormand de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans les méandres de ce concept de néolibéralisme. Et merci aux techniciens des bureaux de Radio France à Montpellier qui ont assuré ce duplex. Demain, nous traversons non plus la Manche, mais l'océan Atlantique. On se demandera si la croissance américaine est vraiment en difficulté ou si au contraire, elle résiste mieux que prévu. Grâce à Trump, on posera la question à nos trois invités. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.